accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Rien de pire pour un citadin lorsqu'une ligne de train ou de métro tombe en panne. C'est souvent le chaos assuré en quelques minutes, surtout aux heures de pointe. Que dire alors de la situation qui prévaut depuis des mois à Budapest, capitale hongroise de 2 millions d'habitants, sur une des lignes de métro devenu le cauchemar des voyageurs. Car les rames qui la parcourent, construites par l'Union soviétique dans les années 70, tombent très souvent en panne. Les autres lignes ont été rénovées en faisant appel à la technologie occidentale. Mais c'est une entreprise russe qui réhabilite actuellement cette ligne 3 suite à un accord signé par Viktor Orban avec Vladimir Poutine, ce qui alimente encore un peu plus la colère des usagers à bout. Reportage sous terre de Florence Labruyère.
Les Budapestois l'appellent le métro bleu, bleu comme la couleur de ses wagons. C'est la ligne numéro 3, la plus importante du réseau budapestois. C'est aussi la plus mal en point. Construit dans les années 70 par le grand frère soviétique, les wagons rongés par la rouille font un bruit d'enfer et les rames tombent souvent en panne. Patrick, un lycéen de 16 ans, évite de voyager sur cette ligne.
D'après ce que j'ai entendu, il y a eu de la fumée, parfois des débuts d'incendie. Moi, j'ai pas envie de mourir brûlé. On ne peut pas faire autrement. Il faut contourner cette ligne. Pour être en sécurité, ça vaut le coup de prendre deux correspondances en plus.
Peter, lui, n'a pas le choix. Il travaille dans l'hôtellerie et s'il veut être à l'heure à son travail, il est obligé de prendre la ligne numéro 3.
C'est un scandale, cette ligne. Tout le monde pense que c'est une honte. On est en danger de mort là-dedans. Sans compter que c'est un sauna.
Le Premier ministre Viktor Orban a décidé de faire rénover ses wagons par une entreprise russe. Une dizaine de rames a déjà été relookée en Russie. Mais depuis leur mise en service, au mois de mars, c'est encore pire qu'avant. Attila Gouyache est président du syndicat des travailleurs du métro.
Un jour, les portes d'un métro se sont ouvertes des deux côtés à la fois, sur le quai et sur la voie. Heureusement, personne n'est tombé sur les rails. Cela aurait pu provoquer un accident mortel. Un autre incident sérieux s'est produit. Un conducteur n'a pas pu ouvrir les portes. Les voyageurs sont restés bloqués à l'intérieur pendant plus de 10 minutes.
Ce jour-là, en pleine heure de pointe, le journaliste Zoltán Nagy se trouvait dans la rame avec les passagers pris au piège. Il a été témoin de leur colère.
Dans le wagon, il y avait des encarts publicitaires où on pouvait lire ce message du gouvernement. La Hongrie est un pays fort et fier. Alors les gens autour de moi se sont mis à insulter Viktor Orban en disant « Ah, elle est forte et fière, ta putain de mère. Espèce d'ordure, tu construis des stades de foot et nous, on est coincés ici. » Avec ces wagons rénovés, il y a sûrement quelqu'un qui se met des milliards dans les poches. Oui, je n'ai entendu personne, je dis bien personne, défendre Orban. Il y avait une atmosphère de lynchage. D'ailleurs, dans notre journal, nous avons titré « Chaos et ambiance de lynchage dans le métro ».
Et les petits incidents techniques se sont multipliés. La régie des transports de Budapest n'a pas voulu répondre à nos questions. Mais selon le syndicaliste Attila Gouyash, ces problèmes seraient dus à un logiciel informatique défectueux.
Par exemple, le conducteur reçoit un signal indiquant un problème de fermeture des portes. Il va voir et les portes sont bien fermées, mais le signal clignote toujours. Et il y a eu de plus en plus de pépins comme ça. À chaque fois qu'une nouvelle rame arrivait de Russie, il y avait des problèmes.
Des problèmes courants dans tous les pays quand un nouveau train est mis en service. L'ennui, selon Attila Gouyash, est que cela dure depuis des mois.
Normalement, le constructeur russe aurait dû réparer ses pannes et réviser les rames encore en chantier en Russie pour que ça ne se reproduise pas. Le problème est qu'ils ont des employés à Budapest, mais ce ne sont pas des techniciens, ce sont de simples monteurs. Ils n'ont pas compris comment fonctionnait le logiciel informatique très compliqué. Ils ont envoyé des emails à l'usine en Russie qui leur donnait des conseils, mais ça n'a pas marché.
Finalement, toutes les rames rénovées ont été retirées de la circulation et l'entreprise russe a envoyé une vingtaine d'ingénieurs à Budapest. Ils ont réparé le système et les rames sont actuellement testées avant d'être remises en service. Mais Peter n'est pas rassuré pour autant.
C'est comme si on essayait de transformer une Trabant en voiture électrique. Ça n'a pas de sens. Ce contrat montre que la Hongrie se rapproche de la Russie et il y a sûrement des pots de vin derrière tout ça.
La Hongrie dépense 222 millions d'euros pour ce métro russe. Selon l'opposition, acheter des wagons neufs à des constructeurs occidentaux aurait coûté moins cher.
Возлаяще во всех злых времен, когда я гнал гневы Бога, христиан и западных стран, подвиже деспота углеше.
Entre la Russie et la Bulgarie, on est au-delà de la guerre des mots. Depuis la mi-mai, les deux pays s'opposent sur l'alphabet, plus précisément sur l'origine de l'alphabet cyrillique, Damien Vodenicharov.
Tout commence le 24 mai, une date sacro-sainte du calendrier bulgare, puisqu'on y fête la journée de l'écriture slave. La Bulgarie est aussi considérée comme le pays d'origine de l'alphabet cyrillique actuel. Et c'est justement ce jour que choisit Vladimir Poutine pour jeter son pavé dans la mare. En recevant à cette occasion son homologue du macédonien Gueorgui Ivanov, le chef du Kremlin a déclaré que l'écriture slave provenait des terres de Macédoine. En visitant Bulgarie, le champion d'échecs et député de la Douma, Anatoli Karpov, a surenchéri, attribuant la création de l'alphabet cyrillique à l'Empire byzantin. Ces déclarations ont provoqué un tollé en Bulgarie. Le président a réagi vivement aux théories de Vladimir Poutine, alors que le premier ministre a annulé sa rencontre avec Karpov. En fait, les origines de l'écriture slave sont pour le moins compliquées. Au IXe siècle, l'empereur byzantin Michel III envoie les frères Cyril et Méthode en mission d'évangélisation dans les États slaves et francs. Les deux frères, plus tard élevés au rang d'apôtres des Slaves, sont originaires de Thessalonique, ville grecque située dans la région historique de Macédoine. À cette époque, les Slaves sont illettrés. Cyril et Méthode créent alors l'alphabet glagolitique, premier système d'écriture du vieux slave. Il est composé de caractères originaux, certains chercheurs y décèlent même le nombre d'or, d'autres établissent un parallèle avec l'écriture chinoise. Un disciple bulgare de Cyril, Clément, aurait par la suite créé l'alphabet dit cyrillique en hommage à son mentor. Ce nouvel alphabet s'impose vite dans les États slaves et remplace le glagolitique dont il s'inspire. Aujourd'hui, chaque pays qui écrit en cyrillique a sa propre version de l'alphabet. Des lettres sont supprimées ou ajoutées selon la langue. Avec l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne en 2007, l'alphabet cyrillique en est également devenu le troisième alphabet officiel.
Les jeunes gens. La chronique.
Bonjour Fmino.
Bonjour Laurent.
Avec l'arrivée de l'été, la saison des festivals est lancée un peu partout en Europe. C'est un véritable phénomène générationnel qui concerne des millions de jeunes européens mélomanes. Mais en ce début de mois de juillet, ce ne sont pas franchement les groupes de musique qui font la une, mais un phénomène beaucoup plus grave et inquiétant, Eve.
Oui, Laurent, c'est le cas en Suède, en tout cas, où le festival de Bravalla, le plus grand du pays, s'est plutôt mal terminé le 1er juillet, puisque 4 viols et 23 agressions sexuelles ont été signalés lors de l'événement, ce qui a déclenché dans le pays une véritable tempête médiatique. La réaction des organisateurs n'a pas tardé et on peut dire qu'elle a été plutôt radicale. L'édition 2018 n'aura pas lieu. Il faut dire que déjà l'année dernière, les agressions sexuelles avaient battu des records. 110 plaintes avaient été enregistrées lors des 13 festivals organisés dans le pays.
Alors, le phénomène est tel que désormais, l'idée d'un festival réservé aux non-hommes fait son chemin.
Oui, l'idée a d'abord été lancée par une actrice suédoise, passablement énervée sur son fil Twitter, et reprise par plusieurs sympathisants et sympathisantes avant d'aboutir à l'annonce de l'organisation donc d'un festival de ce type l'année prochaine. Un festival de rock sans hommes, où les femmes pourront profiter de l'ambiance sans avoir peur d'être importunées. Saluée par certains, critiquée par d'autres, cette expérience avait également été faite, figurez-vous, l'année dernière en Grande-Bretagne, puis finalement abandonnée lors de l'édition de cette année, l'édition 2017.
Alors justement, ailleurs en Europe, est-ce qu'on a connu également ce genre d'agression pendant la saison des festivals ?
Lors de ces événements, l'alcool fait partie de la fête et les débordements sont nombreux, qu'il s'agisse d'agressions physiques ou sexuelles d'ailleurs, non. Ce qui a surtout étonné dans le pays, en Suède, c'est plus le nombre de plaintes qui correspond à une évolution globale au niveau national. Depuis le début des années 2000, les plaintes pour viol et agressions sexuelles ont doublé selon les données du Conseil national de la prévention des crimes suédois, le BRA. À tel point, rappelle le quotidien Libération, que l'ex-leader du parti politique britannique, UKIP, a qualifié avec bien peu d'élégance la Suède de capitale européenne du viol. Alors évidemment, le Laurent, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Alors, expliquez-nous justement les nuances par rapport à ces chiffres.
Alors, pour bien comprendre, il faut savoir que la législation suédoise a évolué récemment sur le sujet. Tout rapport avec une personne incapable de consentir, car ivre ou endormi, par exemple, est aujourd'hui considéré comme un viol dans le pays, et ce, qu'il y ait ou non pénétration. La Suède, on pourrait donc dire, est l'un des pays qui a la législation la plus sévère en la matière, bien plus sévère, par exemple, que la France. Enfin, dans ce pays considéré comme plutôt progressiste, surtout en matière d'égalité hommes-femmes, les femmes sont peut-être tout simplement mieux informées de leurs droits et surtout, elles osent davantage les faire valoir et porter plainte que le reste des Européennes.
Alors Eve, est-ce qu'on peut dresser un état, si l'on peut dire, des violences faites aux femmes en Europe ?
Oui, alors j'ai des chiffres qui datent de 2015. Selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union Européenne, une femme sur 5 en Europe a subi des violences physiques ou sexuelles et une sur 2 a subi des violences psychologiques. Pire, selon les données de la Banque mondiale cette fois, le viol et la violence conjugale représentent pour une femme entre 15 et 44 ans le risque le plus grand, plus grand que le cancer ou les accidents de la route réunis. En résumé, une femme sur 5 sera victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie dans le monde, mais seulement 15% en moyenne fait appel à de l'aide extérieure et porte plainte, ce qui laisse penser que ces chiffres sont encore largement sous-estimés.
Mmh. Alors Eve, comment prévenir ou essayer de prévenir ces agressions sexuelles, à commencer par ces fameux festivals?
Alors depuis l'annonce de l'annulation du festival suédois l'année prochaine, plusieurs autres gros festivals ont montré patte blanche en affirmant déjà lutter contre les agressions visant les jeunes femmes. À Dour par exemple en Belgique, une cellule de suivi existe sur place et l'association Sex & Co fait de la prévention sur site également durant toutes les festivités. En Grande-Bretagne, grande nation du rock et terre des plus grands festivals européens, un collectif de jeunes étudiantes de 17 ans, les Girls Against, a décidé de lever le voile sur ces pratiques. Elles ont monté une campagne menée auprès des groupes eux-mêmes, des groupes de musique, et ont réussi à attirer l'attention des médias. Bref, aujourd'hui, un peu partout en Europe, ça bouge. On prend lentement conscience du phénomène, ce qui est déjà une première étape pour le combattre, en espérant qu'un jour, les jeunes femmes pourront enfin profiter tranquilles de ces événements.
On l'espère. Merci Eve Minot. À la semaine prochaine pour votre dernière chronique avant la pause estivale.
À la semaine prochaine.
Dans les salaires, dans les discours, dans les vestiaires, chez les Zemmour, dans la publicité qui racole, les absurdités des protocoles, ou bien vis-à-vis des kilos, là il y a encore du boulot, et même chez Stabilo, le sexisme est partout.
Le sexisme qui va se nicher jusqu'au cœur de l'atome en République tchèque. Pour recruter une équipe de jeunes femmes stagiaires, une entreprise n'a pas hésité à les dénuder et à solliciter l'avis des internautes afin d'élire une Miss Énergie. Précision d'Alexis Rosenzweig.
Il s'agissait de jeunes filles de moins de 20 ans. Une dizaine d'entre elles avaient été sélectionnées parmi des bachelières de l'année par la société qui gère les centrales nucléaires tchèques. Le plus important groupe du pays, en fait, dont la majorité du capital est détenu par l'État. Postées sur les réseaux sociaux, les photos des candidates devaient faire l'objet d'un vote des internautes pour désigner la gagnante d'un stage de 2 semaines dans l'entreprise, sur des critères évidemment très éloignés de la technologie nucléaire, comme la couleur de leurs yeux ou leur passe-temps favori. Et c'est ce qu'on appelle un bad buzz qui s'en suivit, d'ampleur quasi atomique, puisque ce grotesque concours a été mentionné dans les médias du monde entier, jusqu'en Inde, en passant par CNN et Bild Zeitung. Le service de communication du groupe énergétique a donc dû s'excuser platement, annuler le concours et promettre un stage à toutes les candidates. Il faut noter que la levée de boucliers à Prague fut efficace, initiée notamment par une association qui organise chaque année un hit parade des publicités les plus sexistes. Mais au-delà de cette campagne scandaleuse de recrutement de stagiaires, il y a encore aujourd'hui en République tchèque un réel problème d'inégalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, en termes de salaire et d'opportunités notamment. Le pays est un des plus mal classés dans ce domaine en Europe. Un triste constat établi encore récemment par le chef de la diplomatie tchèque qui a indiqué avoir honte de la situation actuelle.
17.000 metri quadrati collocati su 4 piani. Ecco Italy Roma, il nuovo mega parco dei divertimenti enogastronomico della capitale.
Bon.
Direction l'Italie, vous l'aviez deviné, son soleil, son huile d'olive, ses tomates et la multitude de produits gorgés de soleil qui font la réputation de sa gastronomie. Dans la péninsule, une enseigne concentre et commercialise toutes ses denrées. Italie, écrivez-le eat comme manger en anglais et Italie. On dénombre 13 magasins en Italie, mais aussi aux États-Unis, au Brésil, en Turquie, dans les pays du Golfe et en Asie. À Rome, le reportage gastronomique d'Olivier Bonnel.
Per mangiare locale, stagionale, sano e giusto, Stagioni, la nuova osteria di Italia, vi aspetta a Penoterra con le sue sane prelibatezze.
Manger sain, local et de saison. Les annonces dans ce magasin, pas comme les autres, sonnent un peu comme un credo maison. Bienvenue chez Italie, temple de la gastronomie haut de gamme italienne, une chaîne née en 2003 sous l'impulsion du Turinois Oscar Farinetti. Nous sommes dans le magasin de Rome, l'un des fleurons du groupe. Ses 17 000 mètres carrés répartis sur 4 étages en font jusqu'ici la plus grande épicerie fine au monde. Ce palais de verre domine la gare d'Ostiense, l'une des plus passantes de la capitale italienne. Ici se pressent autant de Romains que de touristes, car le lieu est devenu une visite quasi obligée pour les amoureux des bons produits de la péninsule. Pour rejoindre le troisième étage, il faut se faufiler entre les ateliers où les gnocchis sont faits devant vous, passer sous des jambons de Parme qui sèchent accrochés au plafond et saliver devant des dizaines de rayons où alternent huile d'olive d'appellation protégée et mille autres délices comme ces sauces à la truffe ou aux tomates séchées. Au troisième étage, nous retrouvons Marco Piarulli, le jeune directeur du magasin.
Ici, non seulement on vend, on mange, on cuisine, mais c'est plus que cela. On travaille beaucoup sur la culture de la nourriture. On a ainsi un calendrier très riche d'événements, de cours de dégustation et d'activités pédagogiques.
Italie se veut bien plus qu'un magasin, aussi fin soient les produits qu'on y trouve. C'est un espace de convivialité où le plaisir passe avant tout. Le slogan de la marque, « Mange mieux, vis mieux ». Le soir, une salle accueille les gourmands pour des cours de découverte du vin, de la bière ou de l'huile d'olive. À côté de l'espace librairie où sont empilés les guides slow food ou les recettes bio à la mode, une salle au mur de verre, l'espace enfant. Aujourd'hui, c'est laboratoire de cuisine pour des bambins de 6 à 12 ans. Alessandra est la coordinatrice.
Aujourd'hui, on travaille les fruits et légumes. On va donc préparer des boulettes de pois chiches et de courgettes au curry que l'on va faire sauter dans la chapelure. Ensuite, on fera des sorbets à la pastèque, au kiwi et à l'ananas. Et puis, on terminera en leur faisant faire un cheesecake qu'ils pourront emporter chez eux.
À l'étage au-dessus, geste précis, Nicolas, le pizzaiolo, prépare une margarita. Il en fait 200 par jour, le double les week-ends. Pour lui, le concept Italie a vu juste.
C'est comme ça qu'on devrait vendre l'Italie, quand on voit tous les produits dans le monde qui sont faussement italiens et qui nous font vraiment une mauvaise publicité.
Italie produit 25% environ de ses propres produits, à commencer par du pain et du fromage. Le reste provient d'un réseau de 2000 producteurs locaux, comme Sarah, qui travaille dans une coopérative d'huile d'olive à Sabina, au nord de Rome. Pour elle, Italie est la meilleure des vitrines.
C'est important pour nous de faire des dégustations ici car on a un rapport direct avec les clients. On a décidé de se rapprocher d'eux et là on est dans une production en circuit très court. Et surtout, on est très fiers de pouvoir raconter nos terroirs à l'étranger.
Depuis l'ouverture du premier magasin à Turin en 2007, la marque Italie a essaimé non seulement dans la péninsule italienne, mais aussi dans le monde entier, du Brésil au Japon, en passant par les États-Unis ou les Émirats, en tout 38 magasins. Italie a trouvé son identité dans cet équilibre entre production locale exigeante et ouverture sur le monde. Marco Piarulli, le directeur du magasin.
Plus de 40% de notre clientèle ici est étrangère, car notre magasin et nos ateliers sont tout près du siège de la FAO, l'organisation de l'ONU pour l'agriculture. Cela nous stimule pour grandir encore plus, exporter aux États-Unis, en Europe ou en Asie. La gastronomie italienne est appréciée dans le monde entier, et on le voit car la clientèle qui passe le plus de temps ici, ce sont les touristes.
Pour Nicolas, le pizzaiolo, l'ouverture prochaine d'un magasin à Paris est un signe de prestige.
Italie à Paris, c'est un beau défi parce qu'en France aussi, on fait très attention à ce qu'on mange. Ce sera intéressant de voir comment les Français et les Parisiens vont accueillir nos produits dans ce concept de magasin.
Le groupe Italie espère bientôt être coté à la Bourse de Milan pour financer une croissance en pleine expansion, actuellement de 500 millions d'euros par an. Oscar Farinetti, qui a laissé les rênes du groupe à ses fils, espère doubler son chiffre d'affaires. Sa dernière folie, une ferme-usine géante de 80 000 mètres carrés dédiée à la biodiversité italienne. Elle devrait ouvrir en septembre prochain, non loin de Bologne.
Cette édition d'Accent d'Europe a été mitonnée par Françoise Grelot. On se retrouve tout de suite sur RFI.fr à la page émission.